الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفير الإسلام، on avait rappelé la dernière fois quel doit être le rapport du musulman avec le temps. On avait vu que les années s'enchaînent, les mois passent, les jours se défilent, et il y a une différence entre le musulman et le non-musulman dans le rapport avec le temps. Celui qui n'a pas iman dans son cœur, l'objectif de sa vie c'est quoi? C'est de cumuler les plaisirs et de faire en sorte que lorsqu'il va mourir, il sait qu'il aura profité pleinement de sa vie. C'est pour ça que celui qui n'a pas la foi dans son cœur, il n'y a rien qui l'effraie plus que la mort. Quand on lui parle de maladie, de mort ou d'accident ou ce genre de choses, la personne a peur parce que son cœur est attaché au plaisir de ce monde. Alors que le musulman, dans son rapport avec le temps, il sait qu'il y a une fin. Comme le kafir, il sait qu'il y a une fin, mais il sait qu'à l'issue de cette fin, il y a un retour auprès d'Allah Azzawajal. C'est pour ça que l'objectif de sa vie, ce sera quoi? Sera de meubler son temps avec le maximum de bonnes actions. Et ce mu'min qui, au moment de la mort, il est conscient qu'il a accompli ses salawats, ses cinq piliers sont complets, ses rapports, son alaqa avec Allah est correct, ses rapports avec les gens sont corrects. Ce musulman-là, il sait que n'importe quel moment où Malik al-Maut peut venir reprendre son âme, il a le cœur tranquille, il a la quiétude dans son cœur. Alors, il y a un point sur lequel on va essayer d'insister cette fois-ci, c'est le fait que le musulman ne doit pas vivre dans l'insouciance de la rafla. Et tout ce que nous percevons de ce monde, que ce soit les bienfaits, que ce soit les difficultés, que ce soit notre rapport avec le temps, comme on l'a dit, que ce soit notre rapport avec l'espace, les choses que nous voyons, tout doit nous faire penser à Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif, c'est d'arriver à un état d'esprit où on pense musulman. C'est pas penser comme tout le monde, c'est pas comme avec la mondialisation, on nous explique, on nous fait comprendre comment il faut concevoir, percevoir les choses, mais c'est vraiment penser musulman. Un exemple du prophète alayhi salatu wassalam, hadith dans lequel on a demandé à Aïcha radiallahu anha, akhbirina bi a'jabi shay'in ra'aytihi min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Yo Aïcha, raconte-nous une des choses qui t'a le plus impressionné dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu que lamma kanat laylatu min layali, on va dire en français ce hadith qui est très long, elle dit un soir où le prophète alayhi salatu wassalam a été avec moi, il m'a demandé l'autorisation, ya Aïcha, dharini ata'abbadu laylata li rabbi. Ô Aïcha, donne-moi ton accord pour que je passe l'intégralité de cette nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Aïcha radiallahu anha, elle explique, elle décrit comment le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait le qiyam al-layl. Faqama fatatahhara thumma qama yusalli. Le prophète s'est levé, il a fait les ablutions et il s'est mis à faire la prière. On se dit que oui, mais ça, il y a plein de gens qui le font. N'a'oudhu billah. C'est-à-dire que c'est tahajjud, comme je le fais, comme beaucoup de gens le font, comme on le fait dans le Ramadan. Mais vous voyez, voyez quelle va être la différence entre le qiyam al-layl du prophète alayhi salatu wassalam et notre qiyam al-layl à nous. Quand notre prophète alayhi salatu wassalam se met debout pour faire deux raka'a devant Allah azzawajal, quelle est sa prise de conscience? Comment il perçoit les choses? Comment il comprend la grandeur d'Allah? Comment il pense comme un mu'min? Alors que nous, malheureusement, même si on fait parfois des ibadah, c'est souvent avec rafla, avec insouciance. Même dans nos salawat, dans nos ibadah, souvent, on est présent physiquement, mais psychologiquement, on n'y est pas. La concentration n'y est pas. La dévotion n'y est pas. Et là, Aïcha, radiallahu anha, elle explique, falam yazal yab, que le prophète faisait la salat, et il pleurait tellement, falam yazal yab, qui hatta balla hijrahu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pleurait tellement, que ses larmes, tombaient sur son giron, au niveau de ses cuisses. Et Aïcha, radiallahu anha, décrit encore, thumma baka, falam yazal yab, qui hatta balla lihyata. Il pleurait tellement que sa barbe mubarak était remplie de larmes. Thumma baka, falam yazal yab, qui hatta balla l'arm. À un tel point que ses larmes touchaient le sol. Aïcha radiallahu anha, elle est impressionnée par l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam, comment il pleure devant Allah azza wa jal. Et là elle demande, et jusqu'à ce que faja'a Bilal yu'adhinuhu bis salat, jusqu'à ce que Bilal radiallahu anha est venu et il a donné l'adhan pour la salat al-fajr. Et là Aïcha radiallahu anha demande, ya Rasulallah lima tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhara. Au prophète d'Allah, pourquoi est-ce que tu pleures autant alors que tu as la promesse d'Allah que toutes tes erreurs, tes péchés, s'il y en a, sont pardonnés, que ce soit les péchés d'avant ou les péchés futurs. Et là, notre prophète alayhi salatu wassalam répond, afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur
reconnaissant vers Allah. Et là, il dit que لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةً. Ce soir, Allah Azza wa Jal m'a révélé un verset tellement important. Égare à ce mu'min qui lit ce verset et qui ne réfléchit pas. Et c'est ça le mot qu'on doit vraiment retenir, réfléchir et méditer. Méditer à travers la création d'Allah, méditer dans toutes les situations de la vie, que tout revient à Allah Azza wa Jal. Et ce verset, c'est quoi? Verset très connu, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Que dans la création des cieux, de la terre, de tout ce qu'il y a, c'est la traduction approximative, il y a des signes pour les gens intelligents. C'est-à-dire quand un musulman il regarde la nature, quand un musulman il regarde les choses autour de lui, c'est pas comme un kafir. Le kafir pour lui, ben, les montagnes sont là parce qu'ils sont là, le ciel est là-haut parce que c'est comme ça. Il ne réfléchit pas, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Pour lui, ce qui est important, c'est quoi? C'est combien il va gagner à la fin du mois. Qu'est-ce qu'il va mettre dans son ventre et qu'est-ce qu'il va donner à ses enfants, etc. C'est qu'est-ce qu'il va léguer quand il va mourir, etc., etc. C'est ça son himma. C'est ça ce qui compte le plus pour lui. Le mu'min, quand on dit penser musulman, c'est quand on voit n'importe quoi dans la création des cieux, de la terre, tout ce qu'il y a autour de nous, subhanallah, on se dit que ça c'est mon créateur qui a créé ça. À travers cela, nous voyons la grandeur, la perfection de la création d'Allah, et cette perfection de la création d'Allah prouve que Allah Azza wa Jal, il est parfait. C'est ce qu'on appelle la relation entre Tawhid et Rububiyya. Savoir que tout vient d'Allah, et Tawhid al-Uluhiyya, c'est quoi? C'est que si tout vient d'Allah, Allah seul mérite d'être adoré. Et le fait de réfléchir, de méditer sur la grandeur de la création d'Allah, ça c'est un acte d'adoration. Pourtant, on n'a pas fait un grand effort. Je peux rester assis et observer les choses. Il y a quelqu'un qui regarde un vide, hein, comme c'est qu'on dit qu'il rêve, hein, il ne réfléchit pas. Et il y a quelqu'un qui regarde pareil. On a l'impression qu'il regarde dans le vide, mais il est en train de regarder la création d'Allah. Il est en train de se dire que celui qui a créé ce ciel qui tient, subhanallah, de la sorte, et qu'aucun être humain ne pourra un jour atteindre ce ciel, ce qui a créé une telle diversité dans la faune, dans la création, les animaux, quelles que soient les races, subhanallah, c'est vraiment un être qui est parfait. C'est un être qui est complet, il est kamil. Cette méditation, ça c'est un grand acte d'adoration. Ça c'est extrêmement important. Ça ne nécessite pas d'ablution. Il n'y a pas besoin d'être dans un état de vaudou. Il n'y a pas besoin d'être dans un état spirituel exceptionnel. Celui qui prend l'habitude de penser à la grandeur d'Allah à travers la création, c'est quelqu'un qui, inshallah, verra son iman augmenter. Parce qu'il va avoir encore plus de yaqin que c'est mon Khalik qui a créé tout ça. Et son iman va augmenter quand il va faire sa salat, quand il va faire ses ibadah. Il aura encore plus de khushu' et khudu'. Il va comprendre devant qui je me prosterne. Je me prosterne devant le créateur des cieux et de la terre. À travers ce hadith, nous voyons également comment notre prophète alayhi salat wa salam passait beaucoup de temps dans le qiyam al-layl. Et lorsque le prophète alayhi salat wa salam lisait le Coran, il avait l'habitude de pleurer. Parce qu'en plus de méditer sur la grandeur de la création d'Allah, il méditait sur le sens profond des versets. Il y a un autre hadith dans lequel, le hadith de Hudhayfa radiallahu anhu, il dit que j'ai accompagné le prophète alayhi salat wa salam dans une prière de la nuit, un qiyam al-layl, qu'on appelle le tahajjud. Faftataha Al-Baqara. Il a commencé la salat de tahajjud en lisant la sourate Al-Baqara. Je me suis dit intérieurement que au bout du 100e verset, le ayat numéro 100, il va faire le cours. Et c'est beaucoup ça, 100 versets. Qui c'est qui lit 100 versets? Je dis ça, il faut dehors. 100 versets, ça commence depuis Fajr, peut-être on lit jusqu'à 7 heures. Se lève, il levait tout. Et alors, c'est beaucoup ça, 100 versets. Il s'est dit que peut-être au 100e ayat, notre prophète, alayhi salat wa sallam, va faire le recours. Mais au 100e, il continue tout mamada. Je me suis dit que يصلي بها في ركعتين فمضى. Dit que peut-être que le prophète va compléter le sourate al-Baqara et ensuite va faire le ruku. Vous savez, le sourate al-Baqara c'est quoi? Subhanallah, c'est plus de 2 siparas et demi. C'est au moins 2 siparas et quart, un peu plus. Et le prophète a complété le sourate al-Baqara, il a commencé le sourate al-Imran. Faqara'aha, il a lu sans interruption le sourate al-Baqara et il a enchaîné avec le sourate al-Imran. Et à chaque fois qu'il y avait des versets où on parle de la grandeur d'Allah, le prophète faisait le tasbih. À chaque fois qu'il y avait des versets où on doit demander protection, le prophète demandait protection à Allah contre les punitions de la tombe, les punitions de l'au-delà, les punitions de l'enfer, etc., etc. Et là, il décrit que ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. Il s'est prosterné, mais pas se prosterner, il s'est mis en genuflexion, le recours, et il a lu سبحان ربي العظيم. On peut se dire que nous, si on lit Subhana Rabbi al-Azim, mais attendez, la suite c'est quoi? فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوَنْ مِنْ قِيَامِهِ. Son recours était aussi long que son qiyam. C'est-à-dire que la position debout, il disait Al-Baqara. Il a enchaîné avec Sourate Al-Imran. Son recours était aussi long que ça. Il dit que lorsqu'il s'est levé, il a dit سَمِعَ اللَّهُ مَنْ حَمِدًا. Et lorsqu'il a fait le sijda, هذا السجود اللي يجلس سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه et sa prosternation était presque aussi longue que la position debout. Ça, ce hadith qui est hadith authentique, nous fait comprendre que notre prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il faisait la salat, il comprenait bien sûr quel est le sens des versets. Mais même quand il disait Subhana, toute pureté revient à Allah, notre Seigneur, celui qui est le plus élevé, ou notre Seigneur qui est l'immense, gigantesque et le magnifique, il ressentait vraiment la puissance de ses adhkars. Donc, ne pas faire la salat avec rafla non plus. Quand on fait la salat, fais bien attention, c'est quelque chose de ne pas penser aux choses de ce monde. Ça, c'est un niveau. Déjà qu'on est dans la salat, on essaie d'enlever tout ce qui nous rappelle le dunya. Mais l'autre niveau, c'est quoi? Ça, c'est la barre plus haut. C'est quand on fait la salat, on pense à la grandeur d'Allah. On arrive à méditer sur la grandeur d'Allah, Azza wa Jalla. Ibn Abbas, radiallahu anhu, disait une parole magnifique. Il disait que rak'atan muqtasidatan fi tafakkur khayrun min qiyam laylatin bila qalbin. Ajib, c'est le kalam d'Ibn Abbas. On dit que quand un mu'min fait deux unités de prière, mais deux unités moyennes, il n'a pas dit court ni long, deux unités moyennes de prière, mais à condition qu'il réfléchit à chaque verset, qu'il médite sur la grandeur d'Allah dans ces deux rakat, c'est beaucoup mieux pour lui que s'il aurait fait une nuit entière de tahajjud bila qalbin, sans réfléchir. Faire deux rakat, mais même si il y a tellement de hadith là-dessus, il y a un des sahaba qui disait que moi je préfère lire Al-Qari'a et Idha Zulzilat Al-Ardu, mais en réfléchissant bien sur la profondeur des versets, plutôt que de lire des longues rakat en passant la nuit. Ça veut dire qu'on a un travail à faire également dans la salat. Très souvent on se dit que je fais mes 5 salat, c'est bon. Ou au mieux, je fais mes sunan, les rawatib, les salat louis, etc. C'est suffisant. Mais dans la salat, mes chers frères, ça, je dis pour moi en premier, qu'Allah donne tout ce tawfiq de mettre en pratique, il n'y a pas de limite dans la salat. Il n'y a pas de limite de perfection. On doit en permanence, jusqu'à notre mort, on doit essayer d'améliorer la qualité de nos salats. Parce qu'Abou Bakr Siddiq, Omar, Uthman et Ali, ils faisaient 5 salats comme nous. Les salats qui sont obligatoires. Ils faisaient les qiyamul layl, peut-être 9, 12 rakat, comme Allah peut donner certains tawfiq de le faire. Mais la différence entre leur salat et la nôtre, c'est quoi? C'est que chaque mot qu'ils prononçaient dans leur salat, ils savaient le sens, ils méditaient, ils pensaient à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Donc le mu'min, il ne doit pas se suffire de ses prières. Il doit faire en sorte que, même si on se dit que oui, mais nous on ne connaît pas l'arabe, je ne connais pas le sens des versets. Mais il y a deux étapes. Première étape, déjà réfléchir sur Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-Azim. Ça, c'est pas compliqué ça. Il y a la traduction dans n'importe quel livre. Essayez de penser à la grandeur d'Allah à travers ces deux tasbihs. Également les sourates qu'on connaît. Qul Allahu Ahad, Qul A'udhu Falaq, Qul Rabbi Nas, Surat Al-Ikhlas, Idha Ja'a Surat Al-Fath, etc. Des sourates qui sont accessibles à tout le monde, qu'on connaît pas en cœur. Essayons de lire le verset, de comprendre le sens. Et quand on lit ça, on essaie de penser à la grandeur d'Allah. Quand on dit Allah, Qul Huwa Allahu Ahad, Allah est unique. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est batil. C'est Allah seul qui mérite d'être adoré. C'est Allah le créateur des cieux et de la terre. Allahu Samad, Lam Yalid Wa Lam Yulad. Allah, il est autonome, il n'a besoin de personne. Hein, il est omniscient, omnipotent, etc., etc. Essayez de réfléchir à la grandeur d'Allah quand on lit les versets du Coran. Ça, c'est la deuxième chose qu'on retient parmi les habitudes du prophète Ali salat wa salam. Ne pas faire la salat avec rafla insouciance. Non, se concentrer et savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Un troisième hadith, on va s'arrêter là, puis on regardera pour dans la prochaine fois. Hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit qu'une fois j'étais auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Faqala li iqra' alayya al-Qur'an. Dit oh ibn Mas'ud, lis le Qur'an, je veux t'écouter. Et là je dis faqult ya Rasulallah iqra' alayka wa alayka unzil. Au prophète d'Allah, je lis alors que c'est toi qui as reçu la révélation. Tu veux que je lis pour toi le Qur'an alors que c'est sur toi que le Qur'an a été révélé. Et là le prophète alayhi salatu dit que non, inni ashtahi an asma'ahu min ghayri. J'aime quand une autre personne lit le Coran et que j'écoute. Ça aussi c'est un ibad. Lire le Coran, c'est un acte d'adoration. Écouter quelqu'un qui lit, c'est un acte d'adoration. Parce que quand on écoute, on peut se concentrer un peu plus sur le sens des versets. Parce qu'on n'est pas occupé à faire en sorte de bien prononcer les runnas, les maqasid, les makharj, les huruf. On a juste à écouter. Et quand on écoute le Coran, on peut essayer de méditer sur le sens des versets. Et donc, Ibn Mas'ud a dit que j'ai lu le surat al-Nisa. Il a lu pas mal de versets jusqu'à ce qu'il arrive un verset qui dit فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Le verset de lequel Allah Ta'ala dit hein, que le jour de la résurrection, en ce sens que pour chaque communauté, il y aura un témoin. Et toi, ô Mohammed, tu seras le témoin pour toutes ces personnes. Et là, il dit que, Rafa'tu ra'si. Et là, j'ai regardé le Prophète sallam et j'ai vu que le Prophète sallam était en train de pleurer. Parce que le Prophète sallam, lorsqu'il écoutait le Coran, il méditait. C'est pas comme nous. Quand nous, on écoute une cassette ou un CD ou un qari, qu'est-ce qu'on entend? On n'entend que la mélodie. On n'entend que lui, il a lu un verset, un souffle de 25 secondes, 30 secondes, ou alors lui, il a lu comme ça, il a la voix qui monte, qui descend, ça mélange, ça revient. Nous, on est impressionné par la mélodie. Mais ça, c'est un des signes de Qiyama, ça. Lorsqu'il restera du Coran que la mélodie. Il y a des gens qui n'auront que la mélodie de la lecture, mais il n'y a pas le sens profond des versets. Le prophète, alayhi salam, écoute Ibn Mas'ud, il écoute la lecture du Coran, Ibn Mas'ud disait très bien, il n'y a pas le moindre doute, mais le prophète, alayhi salam, allait au-delà de l'écoute des versets, il méditait sur la profondeur des versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé et sur le sens profond. On va terminer, inshallah, également par rapport au bienfait. Omar bin Abdel Aziz disait que al-fikratu fi ni'amillahi 'azza wa jall min afdal al-'ibada. Quand Allah a accordé des bienfaits à quelqu'un et que la personne observe les bienfaits et qu'il remercie Allah, il s'énumère qu'est-ce qu'Allah m'a accordé. Ni'amat, ça, la foi, le iman, c'est un grand bienfait. La santé, c'est un grand bienfait. Je peux venir à la salat seul. J'ai pas d'handicap, je suis pas sur une chaise roulante. J'ai pas besoin de gens. Alhamdulillah, je suis autonome. J'ai une stabilité dans ma vie. Tout ça, quand la personne réfléchit au bienfait qu'Allah lui a accordé, ça c'est un grand ibada, min afdal al-ibada. Parce que lorsqu'on réfléchit au bienfait, qu'est-ce qui va sortir immédiatement? Le shukr. On va remercier Allah. Lorsque je pense qu'est-ce qu'Allah m'a accordé, je vais être reconnaissant. Et vous savez, la ta'ji Quran, wala in shakartum la lain shakartum la zidannakum. Lorsqu'on remercie Allah, Allah Azza wa Jal accorde encore plus. Vous savez, il y a des fois où on peut rester silencieux et faire beaucoup de choses. On peut rester silencieux et observer la grandeur d'Allah de la création. On peut être silencieux et écouter quelqu'un lire le Coran et méditer et comprendre vraiment ce qu'il dit et penser à Allah. On peut être silencieux et réfléchir à tout ce qu'Allah m'a accordé. D'où est-ce que j'étais? Par exemple, si quelqu'un s'est converti à l'islam durant sa vie, il doit réfléchir. Il y avait des sahabas qui faisaient ça. Ils s'asseyaient, ils pensaient comment est-ce qu'ils étaient dans le jahiliya, dans l'ignorance, dans l'insouciance, et comment Allah leur a donné la lumière, la guider, et où est-ce qu'ils sont maintenant, ils remercient Allah. Ça, c'est des choses extrêmement importantes. Si avant on ne faisait pas la salah, maintenant, alhamdulillah, depuis 1, 2 ans, 3 ans, on fait la salah, on doit se dire que Allah Akbar, où est-ce que j'étais? Je prenais le chemin du jahim, de l'enfer, et Allah m'a ramené vers le droit chemin parce qu'Allah m'a aimé, il m'a accepté pour ses actes d'adoration. Ça, c'est extrêmement important. Le silence du musulman doit être profitable. Quand il parle, ça doit être profitable. Les moments où il doit attendre dans un embouteillage, dans la queue, fait la queue supermarché, il doit faire le dhikrullah ou penser à tafakkur, comme on a dit, à tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait demandé à Ummi Darda. Et Abu Darda, vous savez, Abu Darda, c'était un sahaba qui faisait beaucoup d'ibada. On avait demandé à son épouse, ma kana afdal wa ibadati Abi Darda. Quelle était la meilleure ibada qu'Abu Darda, radiallahu anhu, faisait? Quand Abu Darda s'asseyait, il méditait, il réfléchissait sur la grandeur d'Allah, sur tout ce qu'on a dit. Ça faisait partie des meilleurs actes d'adoration qu'Abu Darda radiallahu anhu pouvait faire. Et également réfléchir sur quoi encore? Sur nos péchés. Kalam de Hassan à Omar ibn Aziz dit que i'lam anna at-tafakkur yad'u ila al-khair. Quand quelqu'un réfléchit, comme on a dit, à la grandeur d'Allah, ça va le pousser à faire plus de bonnes actions. Wa an-nadam 'ala ash-sharr yad'u ila tarki. Et quand un musulman il réfléchit sur ses péchés, quand il pense qu'est-ce qu'il a fait comme erreur, ça va le pousser à demander tawba. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous ne pensons plus? C'est pas qu'on n'a plus le temps. C'est qu'est-ce qui fait qu'on ne pense plus à demander tawbah à Allah Azza wa Jal? C'est qu'on vit, on va trop vite. C'est qu'on enchaîne les événements. Le manger, le travail, le retour à la maison, la famille. Et c'est comme si que c'est le temps qui a le dessus sur nous. Alors que le mu'min doit contrôler le temps. C'est le musulman qui contrôle le temps. C'est pas le temps qui a le dessus sur lui. Il doit être capable d'arrêter et de réfléchir. Ce qu'on avait expliqué l'autre fois, faire un bilan. Avant de dormir, un mu'min, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit et réfléchit un instant. Il dit qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Il fait le bilan de sa journée, bonnes actions. S'il a vu qu'il a fait des bonnes actions, il remercie Allah. S'il se rend compte qu'il a fait des péchés, il doit premièrement regretter et demander pardon à Allah. Ça doit être un acte quotidien. Avant de dormir, un mu'min se doit de réfléchir à ce qu'il a fait comme erreur et demander pardon. Parce que si on ne réfléchit pas, on ne regrettera pas. Et si on ne regrettera pas, on ne demandera pas pardon. On ne va pas demander pardon à Allah pour quelque chose qu'on n'a pas regretté. Et on terminera très rapidement avec deux citations magnifiques. Un, c'est une mise en garde. Et là, c'est une bonne nouvelle. On va commencer par la mise en garde. Lorsque le prophète alayhi salatu wasalam explique à un sahaba qui avait posé des questions sur l'au-delà, sur la vision d'Allah azza wa jal, il dit qu'Allah ta'ala va ressusciter des gens et Allah ta'ala va appeler une personne. Il va dire à cette personne que, oh mon serviteur, alam ukrimuka wa usawwiduka wa zawwijuka, est-ce que je t'ai pas accordé tel bienfait, je t'ai pas accordé une épouse, je t'ai pas accordé un toit, je t'ai pas accordé tel bienfait. La personne va dire que oui, oh Allah, tu m'as accordé tout ça. Et Allah azza wa jal va demander, est-ce que tu n'avais pas pensé une seconde que tu allais me retrouver un jour? La personne va dire non, ça c'est pour celui qui n'avait pas iman. Il ne pensait pas qu'il allait retourner auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala dira, fa inni ansaka kama nasitani. Et aujourd'hui, je t'oublie comme tu m'as oublié dans ce dunya. Et il y aura une autre personne et une autre personne. On citera la dernière, c'est ce qui nous intéresse. Il y a quelqu'un à qui Allah Azza wa Jal demandera les mêmes questions et lui fera reconnaître les mêmes bienfaits. Et la personne va dire, oui, mais oh Allah, Amen tubika, j'ai eu iman en toi, wa bi kitabika wa bi rusulika, sur toutes les branches de la foi, j'ai fait la prière, j'ai fait le ramadan, j'ai donné le man, wa tasaddaqtu, et il va dire toutes les bonnes actions qu'il a fait. On peut se dire que lui il est sauvé par rapport à l'autre. L'autre carrément il a dit que oui, je ne pensais pas un jour qu'il y aurait un retour auprès d'Allah. Tandis que lui il dit que oui, wallah, j'ai fait les bonnes actions. On peut s'identifier à ce musulman qui a fait toutes les bonnes actions que nous faisons également. Mais Allah Ta'ala dit que Al-An ana ba'athu shahidan 'alayk. Allah Ta'ala va dire qu'on va appeler des gens qui vont témoigner si réellement tu as fait ces bonnes actions. Le hadith dit wa tafakkaru fi nafsi. La personne se dit, mais man dhal ladhi yashhadu 'alayya? Qu'est-ce qui va témoigner contre moi? Quel témoin Allah va appeler? La personne ne comprend pas. Et là Allah Ta'ala va faire en sorte que la personne ne peut plus parler. Je vois de la résurrection, fa yahtimu 'ala fihi, ne pourra plus parler. Et Allah Ta'ala va donner la possibilité aux membres de son corps de témoigner. Est-ce que réellement la personne faisait ses actions ou il ne le faisait pas? Et c'est quelqu'un qui était malheureusement un munafiq. Quelqu'un qui faisait les actions mais intérieurement il n'avait pas véritablement le iman. Wa dhalika al-munafiq wa dhalika alladhi yasqatu Allahu alayhi. Quand on entend ce genre de hadith, c'est quoi l'objectif? C'est pas juste de l'écouter, c'est de réfléchir en permanence. Mais cette personne-là, ça peut être moi qu'Allah nous protège. Il y a le mu'min, il réfléchit également à l'au-delà. Mais comment je vais être de l'au-delà? Quand quelqu'un est en seconde, il est en première, il réfléchit comment il va passer son bac. Quand quelqu'un est en terminale, il réfléchit déjà, je vais faire telle licence, je vais faire telle maîtrise, je vais faire tel master, je vais m'orienter vers telle branche, après vers quelle entreprise, où est-ce que je vais faire mon stage. On réfléchit, on prépare notre avenir de le dunya. Mais le mu'min intelligent, c'est celui qui se dit, mais comment est-ce qu'Allah va m'accueillir? Est-ce qu'Allah va m'accepter? Quelle sera ma situation? Et avec, en réfléchissant, ben, il y aura une prise de conscience. Et quand il y a une prise de conscience, les actions vont suivre. Ça, c'est le contraire du là. C'est le contraire de l'insouciance. Celui qui vit dans l'insouciance, on répète, il va enchaîner ses bonnes actions. Ses salades, ses ramadan, son lecture du Coran, son khatm du Coran peut-être. Il va faire plein de bonnes choses, mais s'il ne réfléchit pas, ça restera une habitude. Il va faire des bonnes actions, il va faire également des péchés. Tandis que celui qui réfléchit à tout ce qu'on a dit, automatiquement son iman augmentera de jour en jour et automatiquement il va s'éloigner des péchés parce qu'il va penser à l'au-delà, il va penser au moment où il retourne auprès d'Allah. Et pour terminer le dessert, la bonne nouvelle c'est quoi? Un sahaba avait demandé au prophète des questions, c'est un hadith très long qui fait au moins 3 pages, et à la fin sahaba dit au prophète d'Allah, c'était au début de l'islam, le prophète venait d'arriver à Madina, sahaba avait demandé des questions, comment on fait le wudu, c'est-à-dire les gens qui apprenaient le dîn. Le prophète explique quelque chose, pourquoi il y a pas mal de choses qui sont citées, mais nous on va parler que le wudu, parce que le wudu tout le monde sait le faire et on le fait au moins 5 fois par jour pour nos salades. Et pour qu'on prenne conscience que même quand on fait une bonne action, on ne doit pas juste faire comme ça, on doit réfléchir. C'est ce qu'on avait appelé, on avait expliqué ça une fois, al-ihtisab. Quand on fait une bonne action, on sait qu'est-ce qu'Allah m'accorde en contrepartie. Et le mu'min intelligent, lorsqu'il fait le wudu, il va réfléchir au hadith qu'on va citer. Le prophète alayhi salatu wasalam explique au sahaba que quand un musulman, il se lève, il va faire les ablutions, lorsqu'il fait le gargarisme, il met l'eau dans son nez pour l'enlever. Il dit que ses péchés sortent par ces endroits, les péchés sortent par les narines et par la bouche. Et lorsqu'il lave le visage, les péchés également tombent au niveau de sa barbe et s'en vont. Lorsqu'il lave ses bras jusqu'au coude également, les péchés s'en vont. Les péchés tombent au niveau de ses cheveux. Lorsqu'il lave ses pieds également, au niveau de ses pieds, les péchés tombent. C'est un hadith qui est authentique, rapporté par Imam Muslim. Ça c'est tarib. Ça c'est une bonne nouvelle. Quelle récompense Allah accorde à un musulman lorsqu'il fait le wudu? Une chose qu'on fait, que tout le monde le fait plus d'une fois par jour. Et donc quand je fais les bonnes actions aussi, je dois réfléchir, pas faire avec la insouciance. Je me dis qu'est-ce qu'Allah va m'accorder, comment Allah est en train d'effacer mes péchés. Ça, c'est extrêmement important. Donc, penser musulman, c'est à tout moment de la journée, dans toutes les actions que je fais, je dois ramener les actions auprès d'Allah. Je dois me dire que tout vient d'Allah et il y aura une issue à travers chaque chose que je fais. Qu'Allah nous donne la compréhension de ces quelques paroles. Ça a l'air d'être un petit peu abstrait, d'accord? Mais qu'on comprenne bien que le mot d'ordre, c'est quoi? C'est toujours avoir la pensée d'Allah dans son cœur et ne pas vivre dans l'insouciance. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah.